allumer un peu plus fort, peut-être. Tu peux parler. Hein.
Celui-là de bouton.
Celui-là?
Celui-là, oui. Pour le son, c'est celui-là.
Cuvée 74, grand poète de la chanson, grand musicien de la chanson, sans doute grand musicien tout court. Bonjour.
Bonjour.
Léo Ferré, comme il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est vous qui allez conduire la rencontre. Je n'aime ni le mot interview ni le mot entretien, tout ça, ça ne veut rien dire, c'est des mots. Disons la rencontre, si on peut arriver à se rencontrer en une demi-heure.
Oui, Eh bien, comment ça va, vous, Denise, votre émission?
Ça va comme le temps?
Ça va. Je n'ai pas l'occasion de la voir parce que j'habite en Italie depuis 5 ans. Et là-bas, je n'arrive pas. D'ailleurs, je ne regarde pas la télévision. Et je vous trouve... Je trouve que vous avez beaucoup de courage, en tout cas. De tenir comme ça une émission, autant que je me souvienne, vous avez le talent de mettre les gens, non pas en valeur, mais en situation. Je me souviens d'interview que vous avez fait de ce garçon que j'aime beaucoup parce qu'il est infiniment intelligent et qui s'appelle Gainsbourg. Et un jour, vous lui avez demandé après ses silences, vous avez le secret. Vous lui avez dit, mais dites-moi, mais pourquoi vous avez retourné votre veste? Pourquoi? Parce que j'ai fait des chansons, parce qu'il commençait peut-être à vivre un peu de son métier. Il vous a répondu, j'ai retrouvé ma veste quand je me suis aperçu qu'elle était doublée de vison. Et c'est parce que vous l'avez mis dans le cas de vous dire ça qu'il vous l'a dit. Voilà.
Oui, alors dans ce que vous dites, il y a deux choses, enfin, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais il y a deux choses que je voudrais relever. Quand vous parlez de courage, bon, ben, c'est un bien grand mot, d'une part. Et d'autre part, quand vous dites vous mettez les gens en condition, c'est sans doute vrai, et ils n'apparaissent intelligents que quand ils sont intelligents. Au fond, c'est eux qui apparaissent grands quand ils sont grands, moyens quand ils sont moyens, et...
Et informe dans les sens.
Voilà.
Oui, bien sûr. Mais enfin, vous savez, la télévision, c'est une boîte dangereuse. Et des fois, c'est pas mal. Rarement, mais des fois, c'est vraiment l'art de la télévision, c'est-à-dire cette boîte qui rentre dans la maison des gens. Mmh. Et pas le... Il est facile de passer des films à la télévision. Bon. Les gens se croient au cinéma alors qu'ils sont chez eux. Bon. Non, et c'est rare parce que je pense qu'on n'a pas trouvé encore le moyen de s'exprimer. Peut-être les gens qui vont... La télévision, on dit pas, peut-être, leur donne-t-on pas tous les moyens de le faire. Et le jour où on arrivera à ça, je pense que ce sera enfin l'art qui garantira en même temps les autres, qui n'empêchera pas les gens de sortir et d'aller au spectacle, quand même, parce qu'actuellement, la télévision fait de la concurrence au spectacle, je pense. Quoi qu'on dise. Parce que c'est un... il n'a pas trouvé sa voie encore. Il y a un moyen qui est pas mal de distraire les gens de leur poste, c'est de multiplier les canaux. Et plus il y a de chaînes, moins les gens regardent. Moi, je vois ça. Quand je vais en Amérique, il y a... Dans les hôtels, il y a des télévisions. On peut prendre 12, 14 canaux. Alors j'arrive dans l'hôtel, j'ouvre, tac, 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 je regarde tout et je ferme. Pourquoi? Parce qu'il y a le choix qui est trop violemment offert et à ce moment-là on sort, n'est-ce pas, on s'en va. Enfin, s'il y avait ce tigre qui devrait exister dans cet appareil, ce tigre. Sans, avec les griffes suspectes mais cachées. Eh bien alors, ça serait autre chose, je pense. Il y aura peut-être un jour. jour où l'intelligence moyenne des gens ne sera plus moyenne, sera.
Il y a un japonais qui m'a donné à peu près la même définition de la télévision de son pays. Il m'a dit, c'est... Il faut que vous compreniez que c'est pas comme chez vous. Pour nous, les émissions de télévision, c'est comme... Je peux pas dire le mot parce que le mot est un mot publicitaire, mais disons, ils sont comme des papiers qu'on jette. Ça a de l'importance, mais ça n'a pas plus d'importance que ça. Et ce sont souvent les enfants qui font ça. Il y a 13 chaînes et les enfants tournent beaucoup. Ce qui n'empêche donc pas les Japonais d'aller au spectacle.
Oui. Ils ont 13 chaînes.
Ils ont 13 chaînes. Cela dit, c'est pas 13 fois meilleur.
Non.
C'est-à-dire que c'est pas 13 fois meilleur, mais il leur arrive d'avoir dans la même semaine 5 fois Karajan.
Oui, alors lui.
Ouais.
Oui.
Ou 5 fois Sammy Davis Jr. Ouais.
À mes yeux.
Bon, vous parliez d'aller au spectacle tout à l'heure. On va, si vous voulez, en revenir au spectacle que vous avez donné à l'Opéra Comique très récemment. À la forme qu'il a prise, à ce que vous avez voulu exprimer et au fait que il y a quand même depuis, sinon quelques années, du moins quelques mois, non pas une transformation dans votre manière de faire, d'être, de dire, mais une évolution. J'aimerais bien que vous en parliez.
Vous savez, je ne voulais pas chanter à Paris cette année, parce que je voudrais chanter de moins en moins. Et puis, lorsqu'on m'a proposé de chanter à l'Opéra Comique, pour moi l'Opéra Comique, c'était vraiment l'Opéra Comique. La dernière fois que j'étais dans ce théâtre, il y a quelques années, c'était pour voir Péas et Mélisande de Debussy. Et je me souviens, lorsque je suis sorti de cette représentation, il y a un critique musical que je connais comme ça, de temps en temps je le rencontre. Il vit tranquillement comme ces critiques. Il s'appelle Goléa. Alors je lui dis, en sortant, je pensais pouvoir lui faire comprendre quelque chose. En lui disant, vois-tu, Péléas, c'est un mal nécessaire. Alors il a compris, il m'a répondu, eh bien toi, tu es un mal qui n'est pas nécessaire. Voilà. Quand on m'a proposé l'Opéra Comique, j'ai pensé à la chanson du Mal-Aimé, que j'ai mise en musique il y a des années, avec un orchestre important. Or, un orchestre important, c'est difficilement utilisable parce que c'est très cher. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire ça avec, en étant accompagné par le piano. J'ai connu ces termes. Un pianiste concertiste suédois qui a un très grand talent. La chanson du Mal-Aimé accompagnée au piano, c'était un risque, bien sûr. Et ça passe.
Et au Ferry, vous m'avez dit, j'habite l'Italie, je fais des tournées et puis je retourne en Italie. Et j'ai été frappé en recevant votre disque. Voilà une photo d'un très très joli bébé. Vous voulez bien en parler? Il est tellement joli.
C'est mon fils que j'ai caché pour des raisons privées pendant 3 ans et demi. Et maintenant, comme je n'ai plus à le cacher, je le montre de façon agressive. Alors la photo de ce petit. Pas être chez les gens comme ça. Et cette chanson, c'est pour lui. Il est pas mal ce mec.
C'est drôle parce qu'on dirait un petit Eurasien, il a des yeux comme ça.
Moi je l'appelle Linkas.
Comment?
Il ressemble à Linkas.
Il aime bien s'entendre avec vous, là.
Il s'entend bien.
Comment ça se passe?
Très bien. Je l'emmerde pas du tout. Je voudrais lui apprendre certaines choses précises qui lui serviront. À ne pas marcher sur le voisin, jamais. À respecter la vie. Même des plus petits insectes. Et à faire l'amour. Bien.
Est-ce qu'il vous raconte sa vie quelquefois?
Sa petite vie à lui, parce que... Il y a des tantes qui sont très gentilles avec lui. Alors l'autre jour, ils étaient à côté de moi, ils mangeaient. Ils se penchent vers moi, ils me disent... Elles me font chier. Ce qui est fou, d'ailleurs. Et alors, ensemble, j'ai regardé la télévision. Parce que la télévision, en Italie, la chanson en Italie, c'est vraiment au 36e dessous. La chanson italienne, c'est lamentable. De temps en temps, il regarde la télévision avec moi, puis il voit des films d'action, puis alors je lui fais comme ça. Alors il me regarde, il me fait. Vous savez. Et l'autre soir, il était à côté de moi, comme ça, et il regardait une chose innommable, enfin, un chanteur. Voilà. Moi, je lui ai rien dit, il dit comme ça. J'ai dit, alors, ça te plaît? Il me dit, c'est de la merde.
Est-ce qu'il écoute quelquefois la chanson française?
Non, il écoute la chanson du mal-aimé, il écoute ma musique. Avec le casque. Jusqu'au bout.
Jusqu'au bout?
Oui.
30 minutes.
Ça fait 45 avec l'orchestre, oui.
Bouge pas.
Il écoute, bouge pas. Il me demande. Fais-moi écouter la musique, papa. Vous savez, moi, j'ai jamais eu d'enfant. J'ai élevé une enfant qui n'était pas à moi. Faut pas. C'est vrai, à moi. Et alors là, j'ai découvert des choses que j'ignorais totalement. Je me disais, le monde, c'est embêtant. C'est... Non, le monde des autres, c'est embêtant. Je sais que c'est un lieu commun de dire ça. Les siens propres, c'est jamais embêtant. C'est un peu comme la peinture. Quand j'étais jeune, je disais la peinture, ça sert à rien, pourquoi il y a la photographie? J'étais comme un balai, mais exprès. Avec la plus grande mauvaise foi. Et un jour, enfin, garanti, je suis rentré au musée de l'Orangerie. Et moi, je savais que devant Van Gogh, je t'ai fait couper l'oreille, comme ça. Par une fille. Si c'était coupé l'oreille, il avait donné à une fille dans une... maison de tolérance. Dans ce bordel. C'est tout ce que je savais de Van Gogh, comme la plupart des gens savent de Beethoven, par exemple, il était sourd. Et je suis rentré, et j'ai immédiatement fondu en larmes, en regardant. Donc c'était un critère fabuleux, puisque je ne savais rien de la peinture. Je voulais rien savoir. Je savais rentrer, ça m'était enfoncé comme un coup de poing dans la tête. Et lui, c'est pareil. J'ai découvert le sens de la vie et la merveille de la maman qui aime son fils. Parce qu'elle l'a fait, parce qu'ils sont de là. Et ça, l'homme ne peut pas savoir. Et on voudrait être femme pour avoir ce sentiment d'aimer la plus belle œuvre d'art. C'est plus beau que la musique, ça. La vie, c'est pas mal.
C'est drôle, Léo. Après ça, j'aimerais bien... J'aimerais bien qu'on parle entre guillemets métier, mais... Après ça, j'ai plus tellement envie. Vous voulez qu'on essaye quand même?
J'ai pas envie, moi non plus.
Non.
Non.
On en reste là?
Je pense. J'aime assez... bêtifier devant ce mec. Métier. Qu'est-ce que c'est que le métier? Vous avez cassé la vie, vous. En approchant ce métier. Hein? Mais ça vous plaît quand même. Parce que vous connaissez des gens comme moi.
Ça n'empêche pas d'avoir sa vie à soi.
Oh oui. Mange une cigarette, toujours les paquets vides. Là, hop, voilà. Là, il y a ce qu'il y a dans une poche. C'est extraordinaire. La poche d'un homme conscient, organisé. Et voilà, lame de rasoir. Et ça, c'était pas prévu. Ça, c'est un machin pour la gorge. Ça, c'est une brosse à dents de vagabond. Oui, pliable. Alors après, on raccorde les bouts, puis on se lave les dents. C'est les dents qui restent. Ça, c'est un couteau suisse de mon copain. Voilà. C'est pas mal. Ça, c'est des bonbons qu'on me donne dans l'avion. Alors, je prends les bonbons. Voilà. Je vous donne ces bonbons de lisse. Ah, tiens, il y a des cheveux à moi, ou tous des bonbons. Les cheveux, ça porte bonheur. Il faut votre poche. Il faut votre poche. Et là. Ça, c'est un. En profondeur, c'est un saphir. Vous savez, pour les disques. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, maintenant, il y a une brosse. Allez. Ça, c'est tout. Il y a des cheveux. Alors, je me coiffe comme ça, on dirait une huître. Hein? Voilà. Ça, c'est des lunettes. Ça, c'est une note d'hôtel. Ça, c'est papier que j'ai mis au téléphone. Ça, c'est encore de machin, mais alors là, sans... c'est pas mal. C'est sans... c'est moins bon. Machin. Ça, c'est un truc pour la gorge aussi. Et ça, c'est encore un truc pour la gorge. Moi, dans les Janine, elle est organisée, elle chante. Elle sait ce que c'est de perdre la voix. Moi, je dis que je suis pas un chanteur. Et pourtant, je suis un chanteur. Ça, c'est des cachets que me fait un copain, qui est un grand prof de neurophysiologie. Comment plus, on ne peut plus acheter du Maxiton, lui m'en fait à moi. Il me dit, alors ceux de couleur, c'est pour tenir réveillé, les blancs, c'est pour dormir. Ça, c'est un crayon. Voilà. Il doit avoir mon passeport. Et voilà. J'ai encore des papiers. C'est pas mal, hein. Et je me dis toujours... faut que je mette de l'ordre dans mes affaires.
J'allais vous répondre avec le titre d'une de vos anciennes chansons. C'est l'homme.
Eh oui.
Mais vous verrez, quand je pense qu'il y a des gens qui ont peur de vous, je suis très touchée que vous m'ayez fait cadeau, sans même que je vous le demande, du Léo Ferré quotidien, tendre.
Eh oui.
Un homme.
Oui.
Comme les autres.
Comme les autres. Un homme qui aime. Donc pas tout à fait un homme comme les autres. Hein? Eh oui.
C'est ce que je voulais vous faire dire.
Merci. Je sais que je suis pas comme les autres. Je voudrais bien. Des fois. Passer pour un seul individu ou pour une canaille comme toi, on ne l'est pas. Vous comprenez?
Finalement, Léo, on ne se connaît pas, mais... Tout ce que vous venez de dire de vous, c'est comme si je le savais d'avance.
Je vous remercie. Je sais qu'il y a certaines personnes qui regarderont cette émission, qui diront, regarde-le. Regarde-le. J'ai envie qu'il peut me montrer quelque chose comme ça, qui émeuve les gens. Je me suis empêché de pleurer tout à l'heure, vous savez. Parce que la dernière fois que j'ai fait une émission avec vous, j'avais pleuré. Et puis vous m'aviez laissé le truc, je vous avais dit couper, et puis vous ne m'avez pas coupé. Hein? Alors là, je me suis empêché de pleurer. J'avais envie de pleurer. J'ai pas pleuré. C'est pas mal. Parce qu'il y avait pleuré, les gens qui disaient, regardez-le. Et les gens. Des fois. Déjà.
Alors Léo, je vais vous raconter pour finir une histoire qui va vous faire sourire. J'ai sauté dans un taxi il y a quelques jours, j'étais pressée. Et le chauffeur de taxi me dit cognac j'ai. Alors je lui dis non, je ne veux pas à la télévision pour le moment. Et il me dit, ah, je croyais que vous alliez encore faire pleurer les hommes. Et quoi? Il me dit, vous vous souvenez pas, Léo Ferré, il y a 7 ans? 7 ans après.
Eh ben.
Peut-être 8, il s'en souvenait. C'était pas si mal que ça.
Moi, j'avais pleuré pour une femme, parce que je suis sensible, moi. Et puis, elle a eu tort, parce que c'est des larmes de crocodile. Les larmes, c'est une faiblesse. Alors, je tiens à dire ça. Je veux pas qu'on s'enorgueillisse. Qui que ce soit, un jour, où que ce soit, que... Puis dire de moi, il a pleuré pour moi. C'est pas vrai.
Finalement, Léo, on ne pleure jamais que sur soi.
Et il y a le plus beau mot, la phrase la plus courte, qui est de La Rochefoucauld. Il faut la lire. Il faut la donner. On pleure pour être pleuré. Ça vaut Roussin, non ?